Je vous propose qu'on commence par se confier au Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Viens, Esprit Saint, éclairez nos esprits et réchauffez nos cœurs au feu de ton amour pour que nous puissions recevoir toutes les grâces que tu veux nous donner aujourd'hui au milieu de ce temps béni du carême. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de Rocamadour. Et aujourd'hui, j'ai la tâche redoutable de vous parler du sacrement de la réconciliation. Alors, je vais commencer simplement par un témoignage. C'est que depuis que je suis prêtre, j'ai vraiment la joie de confesser souvent. Hein, donc, le sacrement de la réconciliation ou du pardon ou la confession, c'est la même chose, hein, ça a plusieurs noms. Et c'est une très, très, très grande joie de vivre ça quand on est prêtre. Parce qu'en fait, on voit les merveilles que le Seigneur fait dans nos cœurs quand on va se confesser. Et alors, je ne peux pas vous en dire plus, parce que comme vous savez, on ne peut pas raconter. Hein, c'est le secret de la confession. Mais c'est tellement beau que voilà, parfois on aimerait dire « si vous saviez comme c'est beau », et on ne peut pas donner les détails. Hein. Mais voilà, souvent je me dis « oh, Seigneur, qui suis-je pour être le témoin de la puissance de ton amour et de ton pardon ?» On voit vraiment des résurrections spirituelles hein, pendant le sacrement de la réconciliation. Ce sont des gens qui renaissent hein, par le pardon de leurs péchés. Et nous, on n'en est que les instruments, que les témoins. Hein. Enfin, voilà, on n'y est pas pour grand-chose, quoi. Hein. Et puis, on le vit aussi, bien sûr, de l'autre côté. Comme vous savez, on a tout autant besoin de se confesser, bien sûr. Et ce n'est pas plus facile d'aller se confesser quand on est prêtre. Hein. Souvent, voilà, on sait que le sacrement de la réconciliation, c'est important, on en a besoin, et on sait aussi que ce n'est pas toujours facile. Alors, des fois, on a plein de raisons de ne pas y aller ou de repousser. Hein. Donc, par exemple, une première raison, ça peut être je ne l'ai jamais fait. Hein. Je ne me suis jamais confessé, donc voilà, je ne sais pas, je sais pas comment il faut faire, ou on ne m'avait jamais dit que c'était important. Ou parfois, on se dit, mais si j'y vais, j'aurai rien à dire, hein, parce que moi, j'ai pas de péché, j'ai pas l'impression, voilà, ou bien, j'ai rien fait de grave, hein, j'ai pas tué, j'ai pas volé, j'ai rien fait de grave, donc qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire en confession? Ou alors, parfois, c'est l'inverse, c'est-à-dire, j'ai tellement honte de ce que j'ai fait, hein, que vraiment, ça me bloque, et puis j'ai l'impression que ça ne partira jamais, quoi, hein, que je ne serai pas libéré de ce que j'ai fait. Ou parfois, ça peut arriver, je sais que j'ai fait quelque chose de mal et je le regrette pas, quoi. Je regrette pas ce que j'ai fait, donc je vois pas pourquoi j'irais me remettre en question. Hein. Après, il y a d'autres raisons encore. Vous voyez, je vous fais un peu là, toutes les raisons qu'on peut avoir de ne pas aller se confesser. Une fois, on a dit, oh là là, je vais aller voir ce prêtre, puis après, je vais le recroiser dans la rue. Qu'est-ce qu'il va penser de moi hein? Il va se souvenir de tout ce que je lui ai dit. Hein? Alors là, je peux vous rassurer tout de suite, on oublie en fait tout ce qu'on entend, donc, parce que bon, on parle au Seigneur, et puis voilà, on n'est pas en train de se dire, ah, ça y est, je me retiens tout. Non, donc, ou alors, on se dit, voilà, il y a un péché que j'arriverai jamais à dire, ça sortira pas, voilà, je le garde dans moi depuis longtemps. Parfois, on se dit, ah, mais je dis toujours la même chose quand je vais me confesser. Hein, me confesse toujours la même chose. Hein, bah, en fait, c'est pas un mauvais signe. On n'est pas obligé de faire des nouveaux péchés à chaque fois. Hein, donc, vous voyez. Ou alors, ah, mais non, mais moi, je me confesse directement à Dieu. Donc, j'ai pas besoin du sacrement de la réconciliation. Hein, et puis d'ailleurs, qu'est-ce que c'est que ce sacrement? Est-ce que ça vient vraiment de Jésus ou est-ce que c'est pas un truc qui a été inventé par les prêtres, voilà, pour se mêler un peu de ce qui les regarde pas. Hein, et puis le péché, alors peut-être on le dit moins aujourd'hui, mais il y a eu un temps où on disait, oh, le péché c'est un peu dépassé, hein, il faut pas culpabiliser, etc. Bon, vous voyez, voilà, on peut avoir plein de raisons comme ça, et puis peut-être d'autres, hein, qui font qu'on a du mal à aller se confesser, qu'on n'y va pas ou qu'on y va peu. Hein. Alors, je voudrais d'abord, donc je vais parler en deux temps, hein, essayer d'abord de rappeler d'où vient le sacrement de la réconciliation, et puis ensuite comment le vivre, hein, de façon plus concrète. Et puis on pourra échanger un peu, et bien sûr, voilà, vous pourrez poser vos questions. Alors, d'où ça vient? Ça vient d'abord de la révélation de la miséricorde de Dieu. Hein. Dieu révèle qu'il est miséricordieux, et en fait, c'est même le cœur de la révélation. Hein. Le Dieu de la Bible, hein, le Dieu qui s'est révélé dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, s'il fallait un mot pour le définir, c'est miséricordieux. Hein. Et ça, c'est ce que le peuple d'Israël a compris déjà dans l'Ancien Testament. Alors par exemple, chez le prophète Ézéchiel, au chapitre 16, le Seigneur parle à son peuple en lui disant, eh ben, quand je t'ai trouvé, tu étais comme un petit bébé abandonné, personne t'avait lavé, personne t'avait habillé, tu étais là par terre dans ton sang, et puis moi je t'ai pris et je me suis occupé de toi, et je t'ai lavé, et je t'ai soigné, et puis je t'ai mis des beaux vêtements, et puis quand t'as grandi, t'es devenue une jolie jeune fille, je t'ai habillée comme une princesse, hein, et je t'ai épousée, je t'ai choisie, je t'ai donné tout ce que j'avais. Hein. Et puis ensuite, eh ben, t'es allé voir ailleurs. T'es allé voir ailleurs, t'es allé te prostituer avec tous ceux qui passaient, tu as commis l'adultère avec des amants à droite, à gauche, donc en fait Dieu parle de l'idolâtrie, hein, il dit à son peuple, bah, c'était moi ton Dieu unique, hein, qui t'ai épousé, et toi, t'es parti voir ailleurs, et alors, eh ben, t'as été tellement ingrate que tu vas perdre tout ce que je t'avais donné, hein, et tu vas donc vivre dans le malheur, ça va être de plus en plus terrible pour toi, mais moi, je vais me souvenir de ta jeunesse et je vais pardonner tous tes péchés et je ferai avec toi une alliance éternelle. Et quand tu verras que je pardonne tous tes péchés, tu auras honte de ce que tu as fait. Hein? Alors voilà, ça c'est la miséricorde de Dieu. Donc, vous voyez ce passage de la Bible, Ézéchiel 16, ça nous fait comprendre d'abord que le péché c'est une infidélité et une ingratitude. Je me détourne de Dieu parce que je suis pas fidèle à son amour. Et une ingratitude parce qu'au lieu de bien utiliser tout ce qu'il m'a donné, eh bien, je m'en sers pour moi. Hein. Et par contre, la miséricorde, eh bien, en fait, c'est la fidélité de Dieu malgré nos infidélités. Hein, et c'est magnifique, quoi. Hein. Le Seigneur, quoi qu'il arrive, il est fidèle. Nous, on est infidèles, on fait tous cette expérience. Hein. On peut tous se retrouver dans l'histoire de cette femme infidèle, du peuple infidèle. Et en fait, Dieu, lui, il est toujours fidèle. Et donc, quand eh bien, on s'est égaré dans le péché, sa façon à lui de nous montrer qu'il est fidèle, c'est de nous dire, je te pardonne et tu peux revenir vers moi. Alors, la révélation, donc on trouve ça partout dans la Bible, hein. Je vous ai donné un exemple, mais on trouve ça partout, partout, partout. Par exemple, pensez maintenant dans le Nouveau Testament à la rencontre entre Jésus et la femme adultère. Hein. Vous voyez, ça résonne énormément avec la page que je viens de résumer. Hein. Ce n'est pas simplement une histoire individuelle, mais c'est vraiment Dieu qui montre son amour pour le peuple qui est représenté par cette femme adultère. Mais la révélation suprême de la fidélité de Dieu, eh bien, c'est à la résurrection de Jésus. Et c'est le texte que je voudrais vous lire aujourd'hui. Donc, ça se passe le soir de Pâques, le jour même donc, où Jésus est ressuscité. Le soir venu, ce même jour, le premier de la semaine, Alors que les portes de la maison où se trouvaient les disciples étaient fermées par peur des Juifs, Jésus arriva et se trouva devant eux, et il leur dit: La paix soit avec vous. Et en disant cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent tout joyeux de revoir le Seigneur. Alors Jésus leur dit de nouveau: La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, à mon tour, je vous envoie. Cela dit, il souffla sur eux et leur dit: Recevez l'Esprit Saint. Les péchés de ceux à qui vous les remettrez leur seront remis. Ils seront retenus à ceux à qui vous les retiendrez. Alors, pourquoi je dis que c'est la révélation suprême de la fidélité de Dieu? Parce que Jésus montre à ses apôtres, qu'est-ce qu'il leur montre? Ses mains et son côté. Il leur montre les plaies de sa crucifixion. On pourrait se dire, tiens, tiens, ça c'est vraiment bizarre. Pourquoi est-ce que Jésus, après sa résurrection, il a encore ses plaies? Hein? On pourrait dire, bah, ça a été guéri, ça a disparu par la résurrection. Et non, il porte encore les plaies que nous lui avons infligées, hein, et il vient les montrer aux apôtres. Ça, vous voyez, quand il y a des choses comme ça, un peu étonnantes dans l'Évangile, il faut se demander, mais enfin, mais pourquoi? Pourquoi Jésus fait ça? Hein? Pourquoi Jésus fait ça? Et les premiers chrétiens se sont posés cette question. Hein, et on voit que ça les a vraiment marqués parce qu'ils racontent. Jésus montre ses plaies, etc. Et alors, on a la réponse dans la première lettre de Saint-Pierre. Première lettre de Saint-Pierre, au chapitre 2, verset 14. Saint-Pierre dit: Il a porté nos péchés lui-même dans son corps sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris. Par ses blessures, nous sommes guéris. En fait, c'est une citation de l'Ancien Testament, du livre d'Isaïe. Et là, Saint-Pierre y comprend et dit, c'est maintenant que ça se réalise. Par ses blessures, nous sommes guéris. C'est quoi les blessures de Jésus? C'est ce que nous lui avons fait. C'est à cause de nous qu'il est blessé, qu'il a les marques des clous dans les mains, le cœur transpercé, la marque de la couronne d'épines. Donc vous savez que la foi de l'Église nous dit que ceux qui sont responsables de la mort de Jésus, ce n'est pas simplement les chefs du peuple juif à Jérusalem, les Romains, les soldats, Judas, etc. C'est tous les pécheurs. C'est tous les pécheurs. Parce que Jésus a aimé en prenant contre lui tous nos péchés. Hein. Et donc les blessures de Jésus, c'est le résultat de nos péchés. Mais à la résurrection, les blessures de Jésus sont toujours là parce qu'elles se retournent, on pourrait dire, et ça devient les sources de la vie pour nous, hein, les sources de la miséricorde. Et voyez ce que fait la miséricorde de Dieu. Il arrive à retourner nos péchés pour en faire des sources de résurrection, hein, des sources de vie nouvelle. Et voilà pourquoi Jésus nous montre ses blessures en disant, mais tu vois, je suis toujours fidèle. Hein, je suis toujours fidèle. Cette fois-ci, ce n'est pas simplement un adultère que je te reproche, c'est un meurtre. Hein. Tu as tué le vrai Dieu, tu l'as mis sur la croix. Eh bien, moi, je continue à t'aimer et les blessures que tu m'as fait subir deviennent les sources de ton salut, hein, les sources de ta miséricorde. C'est nous qui avons blessé Jésus par nos péchés et ces blessures deviennent la source de notre guérison. C'est bien qu'on peut même dire, voilà pourquoi, voyez, Saint-Pierre dit, hein, par ces blessures, nous sommes guéris. Ah tiens, nous sommes guéris, mais alors ça veut dire que c'est nous aussi qui étions blessés en fait. Hein? Et évidemment, on comprend alors que les vraies blessures du péché, eh ben, c'est nous qui les subissons, parce qu'en fait, quand on pêche, on s'arrache à l'amour de Dieu, comme cette femme infidèle qui part loin de son mari qu'il a tant aimé, et qui du coup se fait beaucoup de mal et perd tout ce qu'elle a pour vivre. Hein? Donc voyez ça, c'est vraiment voilà le merveilleux retournement de la miséricorde divine. Hein. Les péchés deviennent les sources de la vie. Hein. Les blessures glorieuses de Jésus à la résurrection deviennent la source du pardon pour toute l'humanité. Et ensuite, qu'est-ce que Jésus fait? Eh bien, il confie cette source qui jaillit de son cœur ouvert et de ses blessures glorieuses, il confie cette source à qui? Aux apôtres. Aux apôtres. Hein, il leur dit, eh bien, comme le Père m'a envoyé, moi je vous envoie maintenant. Hein? Et aussitôt après, recevez l'Esprit Saint. Il souffle comme ça. Donc c'est la Pentecôte du soir de Pâques. Vous savez, souvent on dit, tiens, l'Esprit Saint, il est venu à la Pentecôte. C'est vrai. Hein? Mais là, on est dans l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 20. Et déjà, Jésus souffle comme ça. Il souffle sur eux l'Esprit Saint. C'est un geste que l'évêque refait à la messe chrismale. Si vous êtes déjà venu à la messe chrismale, il fait comme Jésus. Il fait comme ça. Hein? C'est assez, assez beau. Et il leur dit, Jésus dit aux apôtres, les péchés de ceux à qui vous les remettrez leur seront remis et ils seront retenus à ceux à qui vous les retiendrez. Donc Jésus donne aux apôtres le pouvoir de pardonner les péchés, ou plutôt de donner de sa part le pardon des péchés. Hein. Et donc les apôtres, évidemment, en le donnant aux apôtres, ils le donnent aux apôtres et aux successeurs des apôtres. Et les successeurs des apôtres, ben, c'est les évêques, et puis les prêtres qui sont les collaborateurs des évêques. Et vous voyez, donc c'est la source d'abord du sacrement du baptême qui pardonne les péchés pour la première fois dans une vie, et puis du sacrement de la réconciliation hein, qui permet de recevoir le pardon des péchés après le baptême. Hein. Autant de fois qu'on veut, je vous signale, on peut recevoir le sacrement de la réconciliation autant de fois qu'on veut après le baptême. Hein. Et donc, en fait, c'est directement un don de la résurrection de Jésus. Quoi, hein. Donc, vous voyez, on pourrait dire, en fait, c'est quoi la mission principale de l'Église? Et si on médite cet évangile, c'est quoi la mission principale de l'Église? C'est de donner la miséricorde de Dieu, hein, de montrer la miséricorde de Dieu, de vivre la miséricorde de Dieu. Hein, et en particulier, grâce au sacrement de réconciliation, qui est, on pourrait dire, le lieu principal hein, pour recevoir la miséricorde de Dieu. Donc, quand on va voir un prêtre pour recevoir le sacrement de la réconciliation, Dieu va agir pour nous à travers le prêtre. Le prêtre n'est qu'un représentant de Jésus. Hein. Comme je disais au début, il a tout autant besoin de se confesser. Même le pape se confesse souvent. Hein. Vous vous souvenez peut-être que pape François, on l'a vu plusieurs fois dans des temps de confession, se confesser lui-même. Hein. Et on est des pécheurs. Mais au moment de la confession, le prêtre agit, on dit il agit in persona Christi, ça veut dire au nom du Christ, hein, avec le pouvoir du Christ qui passe à travers lui. Et quand le prêtre dit « Je te pardonne tous tes péchés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit », qui agit? C'est Jésus, hein, à travers le prêtre. Et donc c'est ce qu'on appelle l'absolution des péchés. Hein. Et donc qu'est-ce que fait Jésus à travers le prêtre? Eh bien, il y a deux choses. Il nous réconcilie avec Dieu. On est réconcilié avec Dieu. Ça veut dire qu'on est réintégré dans l'amitié de Dieu. Hein? Donc, vous voyez, l'effet du sacrement de la réconciliation, ce n'est pas juste un petit effet cosmétique. « Ah tiens, tu as une petite tache, je vais t'enlever ta petite tache, hein, et puis ça ira mieux. » Non, non. Souvenez-vous, quand l'enfant prodigue s'en va, puis il revient chez son père, hein, et le père fait la fête et disait « Mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Hein? » Donc les péchés graves nous coupent de Dieu, on sort de son amitié, et donc on est en état de mort spirituelle. Hein? C'est pour ça qu'on les appelle les péchés mortels. Et donc il faut que Jésus vienne nous rechercher, et nous remettre dans la vie. Hein. Et donc, c'est vraiment une résurrection spirituelle, hein, une résurrection de l'âme, résurrection spirituelle. Et le deuxième effet du sacrement de la réconciliation, c'est qu'on est aussi réconcilié avec l'Église. Parce que ça, on n'en a pas forcément conscience, mais quand on commet un péché, non seulement c'est une offense contre Dieu, hein, parce qu'on est infidèle, mais c'est aussi une offense contre nos frères et sœurs, et donc contre l'Église. Parce qu'en fait, on arrache, vous voyez, en m'arrachant à Dieu, je m'arrache aussi au corps du Christ qui est l'Église. Et donc, même si ce n'est pas visible, eh bien, j'ai péché aussi contre mes frères et sœurs. Et donc, le prêtre est là aussi pour me réconcilier avec l'Église. Hein. Et vous voyez, par exemple, on voit très bien ça, Jésus dans l'Évangile, il va souvent manger avec les pécheurs. Et ça a choqué les pharisiens parce qu'il dit, mais non, mais ils ont commis le péché, donc ils sont en dehors du peuple de Dieu à cause de leur péché. Hein. Eh bien, en fait, ils n'ont pas tort. Sauf que Jésus, lui, nous réintègre dans le peuple de Dieu, à condition qu'on se convertisse, évidemment. Hein. Donc, il va à la table des pécheurs pour leur dire, le Seigneur vous pardonne, et maintenant, il faut vous convertir. Hein. Et ce qui est beau, c'est que les pécheurs, vous voyez, ça me touche toujours beaucoup dans l'Évangile, les pécheurs cherchent la compagnie de Jésus. Ils se sentent bien avec lui, quoi. Donc, ils ne se sentent pas condamnés, ils ne se sentent pas pris de haut, etc. Et pourtant, quand on lit l'Évangile, on voit très bien que ce que Jésus enseigne, c'est hyper exigeant, donc on aurait pu se dire, bah, ils auraient pu être découragés, mais non, mais ils se sentent, voyez, aimés hein, et relevés par la présence même de Jésus. Donc ça, c'est voilà, c'est très très beau, quoi. Alors, un bel exemple de réconciliation avec les frères et sœurs dans l'Évangile, c'est l'histoire de Zachée. Hein. Donc Zachée... Vous savez, il est trop petit, il monte sur un arbre à Jéricho pour voir passer Jésus, tout ça. Puis Jésus lui dit, allez, descends vite parce que aujourd'hui, il faut que j'aille chez toi. Hein, et donc, il est tout content, il accueille Jésus dans sa maison. Hein, et Jésus lui dit, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Et lui, donc c'était un publicain, Zachée, donc il détournait de l'argent. Hein, et à la fin, voilà, il rend tout ce qu'il a volé et en plus, il partage tous ses biens aux autres. Hein. Vous voyez, ça veut dire que la miséricorde que Dieu lui fait, eh bien, l'effet immédiat, c'est qu'il va faire miséricorde aux autres. Hein. Ça nous fait penser à une phrase du Notre Père, celle qu'on a toujours du mal à dire. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Hein. Eh bien, en fait, ça, c'est quand ça devient une prière. On dit, bon, ben voilà, on en fait une prière. Mais on voit très bien que quand le Seigneur nous pardonne, si on reçoit vraiment son pardon, bah ça change notre cœur pour les autres. Et donc, voilà aussi pourquoi c'est si important de recevoir le pardon du Seigneur. Et puis, une dernière chose qu'on peut dire sur le sacrement sur l'effet du sacrement, eh bien, c'est que c'est une anticipation du jugement que nous connaîtrons après notre mort. Hein, parce que pourquoi est-ce que le Seigneur nous laisse du temps sur la terre pour nous convertir? Hein, le Seigneur est patient, nous laisse du temps pour qu'on se convertisse. Mais une fois qu'on est mort, est-ce qu'on peut encore se convertir? C'est trop tard, hein? C'est trop tard. Et donc à ce moment-là, on se présente avec ce qu'il y a dans notre cœur, hein, si on peut dire, devant le Seigneur, et puis évidemment avec aussi notre désir, notre demande de sa miséricorde, Seigneur, je t'en prie, voilà. Hein? Mais si on vit sans se convertir, sans, vous voyez, sans se retourner sur ce qu'on a vécu et demander la miséricorde de Dieu, eh ben en fait, le pardon qu'on n'a pas reçu ici-bas, hein, il sera trop tard pour le demander après notre mort, quoi. Ça sera trop tard. Hein. Donc le temps que le Seigneur nous donne maintenant, c'est pour se convertir. Après la mort, on ne peut plus se convertir. Hein. Après la mort, on ne peut plus se convertir. C'est pour ça aussi que ce sacrement est si important. Voilà. Alors ça, c'était donc le premier point que je voulais vous partager. Qu'est-ce que c'est le sacrement de la réconciliation? Et maintenant, deuxième point. Alors comment vivre ce sacrement? Comment vivre, ou on pourrait dire comment mieux vivre ce sacrement? Alors peut-être que là, voilà, on est tous dans des situations un peu différentes. Peut-être qu'il y en a parmi nous qui se sont très rarement ou jamais confessés. D'autres, au contraire, qui vivent fréquemment ce sacrement. Mais je pense que quelle que soit notre situation, on a tous conscience que ce sacrement est hyper important et qu'on peut le vivre toujours mieux, quoi. Hein, on peut le vivre toujours mieux. Et je crois que c'est très vrai. Hein. C'est-à-dire, mieux on vit ce sacrement, et plus ça va nous aider dans notre vie de sainteté, dans notre vie spirituelle, quoi. Alors, on pourrait dire ça aussi de la messe. Hein. On va fréquemment à la messe. Et parfois, on est un peu dans la routine, mais en fait, ça nous fait du bien des fois de dire, attends, je vais relire ou réentendre ou prendre du temps pour méditer ce que c'est la messe. Parfois, au bout de plein d'années, on se dit, oh, ah, mais oui, mais c'est vrai, mais c'est ça, mais je vais pas. Voilà, ça me touche à nouveau d'entendre ça me fait du bien, voilà. Hein, donc, c'est aussi l'esprit de cet après-midi, c'est-à-dire redécouvrir la beauté du sacrement. Alors, quand on vit le sacrement de la réconciliation, donc du côté de celui qui va se confesser, on appelle cette personne le pénitent hein, ou la pénitente, eh bien, en fait, il y a trois choses à faire, trois choses à vivre, qu'on appelle les actes du pénitent. Hein. Donc je pense que c'est des choses que vous savez déjà plus ou moins, mais je vais tout simplement reprendre ça. Le premier, c'est le plus important. Le premier, c'est ce qu'on appelle la contrition, hein, la contrition ou encore le repentir. Hein, le repentir, ça se passe dans le cœur. Hein. On pourrait dire le premier se passe dans le cœur, le deuxième avec la bouche, et le troisième avec les mains. Hein. Donc vous voyez, quand on va se confesser, il faut au moins un cœur, une bouche et des mains. Hein. Et alors dans le cœur, c'est le plus important, c'est dans le cœur. Qu'est-ce que c'est la contrition? C'est une douleur de l'âme et une détestation du péché commis, avec la résolution de ne plus pécher à l'avenir. Hein, ça, c'est ce que dit l'Église. Hein. Une douleur de l'âme. J'écoute hein, la tristesse qui est dans mon cœur à cause des péchés que j'ai commis. Hein. Je regarde ça. Hein. Et une détestation du péché commis. Voilà, je rejette. Hein. Je renie mes infidélités. Hein. Je renie mon manque d'amour pour le Seigneur et pour les autres. Et puis la résolution de plus pécher à l'avenir, donc je souhaite ne pas le refaire. Hein. Et vous voyez, ça c'est le plus important, c'est-à-dire que si je vais me confesser par routine, et puis voilà, j'ai pas trop pris le temps de me préparer, tout ça, je dis, oh, bah, je dis à peu près voilà ce qui me vient, ou, bon, ça ressemble un peu à la dernière fois, mais dans mon cœur, il n'y a pas vous voyez, ce grand repentir. Hein. Eh bien, la grâce de la confession risque de passer sur moi comme de l'eau sur les plumes d'un canard, quoi. Hein? Le plus important, c'est ce qui se passe dans mon cœur, le repentir. Et vous voyez, demander, voilà, on peut, quand on se prépare à aller se confesser, le plus important, il me semble, hein, c'est de demander cette grâce au Seigneur. Seigneur, donne-moi la contrition du cœur, hein, donne-moi le repentir. Vous voyez, vraiment, le rejet de mon péché, hein, et un vrai désir de t'aimer davantage, quoi. Hein? Alors, il y a des très beaux exemples de ça dans la vie des saints. Par exemple, dans la Bible, il y a le roi David, hein, le roi David qui a commis des péchés atroces, hein, l'adultère, puis le meurtre du mari, de la femme avec qui il a commis l'adultère. C'est quand même, voilà, c'est déjà du lourd. Hein. Et puis, en fait, quand le Seigneur, par la bouche d'un prophète, le prophète Nathan, vient lui dire, tu as péché, et vraiment, il reconnaît ce qu'il a fait, quoi. Hein. Il reconnaît ce qu'il a fait et il demande pardon avec une grande sincérité, en vérité devant le Seigneur. Donc ça, c'est ce qui se passe dans notre cœur. Alors, c'est important d'avoir la résolution, on dit le ferme propos de ne pas recommencer. Alors là, attention, quand on dit la résolution de ne pas pécher à l'avenir, ce n'est pas une promesse de ne plus pécher. Hein? Parce que ça, on ne pourrait jamais y arriver, vous voyez. Par exemple, je ne sais pas, moi, mettons, moi, je me mets facilement en colère. Donc, quand je vais me confesser, ce qui compte, c'est que sur le moment, j'ai vraiment le désir hein, et de ne plus me mettre en colère et je vais essayer de prendre les moyens pour mieux maîtriser mes colères. Mais si ça ne veut pas dire, je promets que plus jamais je me mettrai en colère, parce que ça, on n'en est pas capable. Hein, on n'est pas capable. Mais ça veut dire, je ne viens pas juste en disant. Voilà, je viens un peu me soulager la conscience. Ah bah, je me suis encore mis en colère. Et puis de toute façon, hein, bon, je le fais toujours. Et puis tout le monde le fait. Et puis, hein, vous voyez, donc des fois, on se donne comme ça des justifications pour pas se convertir, quoi. Non, la ferme résolution de plus pécher. Hein, mais voyez la distinction avec, c'est pas une promesse qu'on va plus pécher parce qu'on peut pas ne pas pécher. Hein. Alors, sur la contrition, on peut ajouter que l'Église distingue la contrition parfaite et la contrition imparfaite. Et alors, en fait, c'est la contrition parfaite, on l'appelle aussi la contrition d'amour, la contrition de charité. C'est quand on vit cette contrition par amour du Seigneur, aimé plus que tout. Et voyez, en fait, on peut se poser une question, quand je vais recevoir le sacrement de la réconciliation? Est-ce que ce qui me pousse à aller demander le sacrement, ce qui me pousse à confesser mes péchés et à me convertir, est-ce que c'est vraiment l'amour de Dieu aimé plus que tout? Hein? Et vous voyez, quand on aime beaucoup quelqu'un, vraiment, il y a des personnes qu'on aime beaucoup, on a tous dans notre vie des personnes qu'on aime beaucoup, 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 eh bien, ça nous arrive, parfois, on est maladroit avec eux, on dit, il y a des paroles qu'on ne pense pas vraiment et qui sortent et tout ça, on dit quelque chose, ça leur fait de la peine, et là, on se dit, oh là là, je me sens hyper mal parce que j'ai fait du mal à quelqu'un que j'aimais beaucoup. Hein. Et par contre, vous voyez, par exemple, j'ai eu une parole qui n'était pas juste et je vais y repenser, je me dis, il faut absolument que j'aille lui demander pardon, présenter mes excuses et tout ça. Alors que si c'est avec quelqu'un que je connais pas, hein, par exemple dans la rue, voilà, il y a une voiture qui est passée trop vite, j'ai eu des mots pas très catholiques et tout ça, bon, ça me laisse plus indifférent, quoi. Mais voyez, donc en fait, plus j'aime le Seigneur et plus je vais être sensible aux petites infidélités contre le Seigneur, quoi. Hein. Et donc la contrition, le repentir, c'est le fruit de l'amour pour le Seigneur. Et le plus bel élan qui nous pousse à aller au confessionnal, eh bien, c'est celui qui vient de l'amour pour le Seigneur. Parce que oui, même dans les plus petits péchés, même les plus secrets, simplement ceux que j'ai vécu en pensée, hein, eh bien, même là, j'ai peiner le Seigneur au lieu de l'aimer. Hein. Et donc en fait, c'est pour lui redire que je l'aime, que je vais me confesser. Hein. Voilà. Est-ce que je vais me confesser pour dire au Seigneur que je l'aime? Vous voyez, c'est hyper beau en fait, hein, et c'est magnifique. En sachant évidemment que si je peux dire ça, c'est que j'ai la certitude que lui est toujours fidèle, que lui m'aime toujours. Et qui m'attend, hein, au confessionnal comme le père de l'enfant prodigue attend patiemment, hein, son fils qui ne va pas tarder à revenir. Et puis la contrition imparfaite, eh bien, c'est quand on y va pour d'autres raisons. Hein, donc par exemple, bah, ça devient trop lourd sur notre conscience, donc on veut retrouver la paix, ou bien parce qu'on a un peu peur du jugement de Dieu et de l'enfer, ou bien. Hein, parce qu'on voilà, pour plein d'autres raisons, vous voyez, on va se confesser. Donc c'est très bien aussi, évidemment, ça suffit pour aller se confesser et pour recevoir le pardon de Dieu. Hein, et donc il y a plein de raisons. Puis qui peut dire qu'à chaque fois qu'il est allé se confesser, c'était par un grand élan d'amour du Seigneur et tout ça, ça dépend, voilà. Hein, mais en fait, vous voyez, je crois qu'on peut vraiment aussi demander cette grâce au Seigneur. Seigneur, vraiment, y aller par amour pour toi. Hein, par amour pour toi. Alors, vous savez que pour vivre cette contrition et se repentir, donc l'Église nous invite à faire ce qu'on appelle un examen de conscience, donc prendre un peu le temps pour relire notre vie avant d'aller voir le prêtre. Et l'examen de conscience, c'est pas qu'on appelle ça un auto-examen, enfin une introspection. Hein. C'est pas une introspection. Voilà, je vais me concentrer très fort sur ma table et je vais regarder ce qu'il y a eu dans ma vie passée. Non, c'est plutôt, je me mets à la lumière du Seigneur. Hein. Je me mets à la lumière de la parole de Dieu. C'est la lumière de la parole de Dieu. Je dis, ben, Seigneur, voilà, montre-moi dans ma vie ce qui n'a pas été selon ta parole. Et donc, très concrètement, une belle façon de faire un examen de conscience. Eh bien, c'est de le faire, par exemple, à partir des 10 commandements, à partir des 8 béatitudes, à partir du sermon sur la montagne. Vous voyez, je mets ma vie en vérité devant la parole de Dieu, et là, ben, je vois les fois où j'ai pas été fidèle. Hein. Alors, donc, je vous ai parlé du premier acte des pénitents, la contrition. Le deuxième, il a donné son nom au sacrement, c'est la confession. Hein. Et confession, ça veut dire quoi? Ça veut dire confesser, c'est avec la bouche, donc cette fois-ci. Ça veut dire avouer ses péchés. Hein? Avouer tous ses péchés. Donc on va voir le prêtre, et vous savez que c'est protégé par le secret absolu du sacrement. Hein? Le prêtre n'a jamais le droit d'en reparler à quiconque, ni même à vous. Hein? Et on dit tous les péchés passés qu'on a commis. Donc dire ses péchés, ça veut dire j'en assume la responsabilité. Vous voyez, c'est pas du tout un truc humiliant où on s'écrase, c'est plutôt l'inverse. Hein, c'est de dire, bah oui, c'est moi qui l'ai fait. Hein. Comme disait David après son péché, le roi David, j'ai péché contre le Seigneur. Hein, et l'enfant prodigue qui dit, j'ai péché contre le ciel et contre toi, mon père. Hein. Voilà, c'est moi qui ai fait ça. Hein, c'est moi qui ai fait ça. Donc je suis dans la vérité. C'est un acte de liberté, en fait. Hein. L'Église nous dit qu'on doit confesser tous les péchés mortels dont on a confiance, hein, donc conscience, donc les péchés graves, hein, qu'on a fait vraiment en connaissance de cause, voilà, personne m'a forcé, etc. C'était grave, j'aurais pu ne pas le faire et je l'ai fait. Voilà, ça, il faut vraiment le dire dans la confession. Je ne peux pas être pardonné sans l'aveu des péchés mortels. Hein. Donc, vous voyez, c'est important, évidemment, hein, de ne pas cacher des choses, d'être sincèrement devant le Seigneur. Hein, si je vais me confesser en disant, bah tiens, par exemple, je vais ces péchés-là, je vais les dire, puis celui-là, je n'ai pas envie de le dire, je le garde pour moi. En fait, mon cœur est fermé. Hein, mon cœur reste fermé. Et le Seigneur ne pourra pas me donner sa grâce, quoi. Il attend qu'on vienne, voilà, vider notre sac. Hein, donc, ça demande un peu de courage, hein, des fois, mais aussi de simplicité, en disant, bah, en fait, voilà, je veux être en vérité devant le Seigneur. Et vous voyez, je crois qu'il y a un signe de maturité dans la vie chrétienne et de progression. C'est vraiment quand on va se confesser avec sincérité, sans en mettant un peu de côté notre amour-propre, on dit ça c'est pas vraiment en fait, peu importe, hein, et je vais donner tout ça humblement devant le Seigneur quoi. Mais l'Église nous encourage aussi à confesser les péchés moins graves, hein, des péchés qu'on appelle les péchés véniels. Pourquoi? Parce que en fait ça nous aide à guérir, ça nous aide à changer. Ça nous aide à nous convertir, et plus on reçoit la miséricorde de Dieu, et plus on va devenir miséricordieux, hein, comme on disait tout à l'heure. Ça nous aide à progresser. J'ajoute que quand on va se confesser, on vient pour avouer ses péchés au prêtre, mais ce n'est pas le moment tellement de lui parler d'autre chose, hein, parce que parfois on a d'autres sujets qu'on pourrait avoir envie d'aborder avec le prêtre, comme par exemple. On vit une situation délicate, on voudrait avoir un conseil spirituel, on a une question à poser ou tout ça. Ça, c'est plutôt ce qu'on appelle l'accompagnement, hein, l'accompagnement spirituel. Et donc, ce n'est pas ça la confession. Hein. Quand on vit vraiment le sacrement de la confession, c'est pour parler de ses péchés, pour avouer ses péchés au Seigneur. Ensuite, ben, on peut dire par exemple, ah ben voilà, mon père, j'aimerais bien revenir à un autre moment. Pour discuter, et voilà, et certainement le prêtre vous proposera, vous dites, bah d'accord, mais c'est pas en même temps, quoi. Hein. Vous voyez, et on dit ça aussi tout simplement parce que parfois on se confesse à des moments où il y a pas mal de monde qui se confesse, donc si tout le monde, vous voyez, si ça dure un peu trop longtemps parce que chacun a des choses un peu longues à expliquer, bah, ceux qui sont derrière, ils attendent, ils disent, oh là là, ça met du temps. Hein. Donc voilà, il y a aussi cette petite chose, vous voyez, c'est tout simple hein, ce que je vous dis là, mais c'est. Il faut y penser. Ça nous aide aussi à bien comprendre ce que c'est que le sacrement. Hein. Voilà. Et vous savez donc que l'Église nous invite à nous confesser au moins une fois par an. Hein. Elle nous demande de le faire au moins une fois par an. Et que si on a commis un péché grave et qu'on ne s'est pas encore confessé, on ne peut pas recevoir la communion. Hein, puisqu'en fait, on est sorti de l'amitié de Dieu. Et avant de communier, il faut vraiment que le Seigneur vienne nous rechercher. Donc on peut aller à la messe, mais on ne peut pas encore communier. Le dernier acte du pénitent, c'est celui qu'on appelle couramment la pénitence. Mais le nom un peu technique, c'est la satisfaction. Hein, donc en fait, vous savez, toujours le prêtre nous dit, comme pénitence, vous direz une dizaine de chapelets, par exemple, ou bien. Voilà, vous ferez une offrande, une réparation, voilà. Alors, pourquoi est-ce que le prêtre nous dit ça? Parce qu'en fait, l'absolution enlève le péché, hein, l'absolution enlève le péché, mais tous les désordres qui ont été causés par les péchés, ben, ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Alors, il y a des choses assez simples à comprendre. Par exemple, si j'ai volé 50 euros à quelqu'un, ben, si je vais me confesser, la personne, elle n'aura pas récupéré. C'est 50 euros. Hein? Donc, le prêtre va me dire, bah, comme pénitence, vous devez restituer ce que vous avez volé. Hein? Et en plus, eh bien, vous devez faire donc un acte de prière, un acte de service, un petit sacrifice ou un voilà. Hein, et donc, vous voyez, ça fait partie hein, de la démarche de conversion et de réparation. Hein? Donc, c'est important de pas l'oublier. Et en fait, c'est des actes qui nous configurent au Christ. Ça, c'est très beau. Hein. Parce que des fois, vous voyez, on peut voir la pénitence par le petit bout de la lorgnette. Bon, le prêtre m'a dit de dire à notre Père, hein, je vous salue Marie, allez, je vais faire ça vite fait, bien fait, et puis ensuite, je vais aller faire mes courses, quoi. Hein. Donc, évidemment, c'est bien de faire sa pénitence et il faut la faire. Mais c'est des actes pour me remettre dans le sens de Jésus, hein, une configuration au Christ. Et donc, le catéchisme de l'Église catholique dit que en fait, la plus belle satisfaction, la plus belle pénitence, c'est d'accepter la croix que Jésus nous invite à porter. Ça peut nous aider à méditer, hein. Accepter notre croix de tous les jours, voilà. C'est la plus belle satisfaction qu'on puisse faire. Voilà, donc les trois actes, hein, pour vivre ce sacrement, la contrition, la confession et la satisfaction. Et alors je termine, un petit mot de conclusion, puis comme ça nous laissera quelques minutes pour échanger, vous pourrez poser des questions si vous voulez. Vous avez compris, l'Église, voilà, l'Église nous invite à nous confesser fréquemment. Hein. Fréquemment, ça peut vouloir dire une fois par mois, par exemple. Hein. On dit par exemple un rythme de croisière dans la vie chrétienne, ça peut être prière tous les jours, messe tous les dimanches, confession tous les mois. Hein. Vous voyez, le jour, la semaine et le mois. Alors c'est un ordre d'idée, hein. Si c'est tous les 2 mois, c'est tous les 2 mois. Mais je pense que la confession fréquente, vraiment, c'est pas une roue de secours, la confession. Hein. C'est une renaissance, hein. C'est une force. Et en fait, plus aussi on vit la miséricorde et plus on se convertit. Parce que, je vous ai dit, plus on aime quelqu'un, plus on se rend compte aussi qu'on lui fait de la peine. Quelqu'un qui va jamais se confesser, qui ne s'approche pas du Seigneur, il a moins conscience de son péché, il risque d'en avoir moins conscience que celui qui vient souvent. Hein, et avec aussi, ça donne une grande confiance dans la miséricorde. Je sais de toute façon que je serai toujours pardonné. Je serai toujours pardonné. Donc il faut vraiment être bête pour rester à crever de soif à côté d'une source. Hein. On peut y aller, c'est gratuit en plus. Donc voilà. Hein. Confession fréquente, confession sincère. Je vous ai dit, voilà, prendre l'habitude de se jeter à l'eau, hein, sans se regarder soi-même au sens de on n'est pas sur l'amour-propre, là, faut y aller. Hein, on crache le morceau, passez-moi l'expression, mais voilà, avec vraiment ce désir d'être en vérité, hein, par amour du Seigneur. Et puis surtout, confession aimante, hein, confession aimante, parce que c'est Jésus qui m'attend à travers le prêtre. Voilà. Alors je termine par une anecdote. C'est l'histoire de Mère Yvonne Aimée de Malétroit. Donc c'est une mystique dans les années 40, je ne sais pas si vous connaissez, bon, qui avait voilà, une grande vie mystique. Et donc elle avait des révélations privées de Jésus. Et elle en parle à son père spirituel qui ne la croyait pas trop. Elle dit, oh là là, qu'est-ce qu'elle raconte cette sœur? Je vais faire un test pour voir si la sœur dit vrai. Donc il lui dit, la prochaine fois que Jésus vous parlera, vous lui direz qu'il vous révèle quelques péchés que moi j'ai commis et que j'ai dit en confession, quoi. La sœur, elle est obéissante, elle demande ça à Jésus, elle dit, voilà. Et Jésus lui dit, ah mais je peux pas, parce que je les ai tous oubliés. Par contre, on pourrait dire à votre père spirituel que quelque chose que j'ai jamais oublié, c'est qu'il a écrit sur une lettre qui me donnait toute sa vie. Et cette lettre, il la porte toujours sur son cœur. Et donc, elle va dire ça à son père spirituel. Et le père spirituel, alors là, était complètement séché parce que personne n'avait jamais vu cette lettre, à part lui et Jésus. Et donc, il était, voilà, personne ne le savait, quoi. Hein? Et donc, vous voyez, bon, c'est très beau. Et ça nous fait vraiment comprendre que c'est pas des mots. Hein, quand on reçoit le sacrement de la réconciliation, Jésus oublie nos péchés. Il n'existe plus. Voilà, et eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté, j'ai assez parlé,